Bonjour à toutes et à tous, au micro Gabriel Shapiro, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'être en ligne avec Élie Barnavi, historien, essayiste, chroniqueur, professeur émérite d'histoire de l'Occident moderne à l'Université de Tel Aviv, conseiller scientifique auprès du Musée de l'Europe à Bruxelles et qui a marqué de son empreinte les relations franco-israéliennes comme ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002. Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir en ligne, car vous êtes pour moi un témoin unique, avec à la fois le regard du diplomate et celui de l'historien. Pour vivre l'actualité immédiate, le nouveau président des USA, Donald Trump, a nommé récemment David Friedman comme le prochain ambassadeur des USA en Israël, connu pour ses opinions favorables à la colonisation, soutenant même financièrement le développement des implantations, le site d'information de la droite nationale religieuse Arutz Sheva, et manifestant même son intérêt et son intention de déplacer de Tel Aviv à Jérusalem l'ambassade américaine. Comme on le dit souvent lapidairement pour les Juifs, cette nomination, c'est bien pour Israël ?
Ça dépend de quel Israël vous parlez. C'est excellent, ou du moins ça semble excellent pour les colons et les gens qui le soutiennent. Pour Israël, dans son ensemble, c'est loin d'être évident. Mais je vous dis quelque chose qui va vous surprendre, si vous voulez, peut-être. Je constate avec tout le monde que cet homme est un. Il vient des franges. Des franges démentes de la droite israélienne, de la droite américaine, de la droite du Likoud. C'est quelqu'un qui s'est tout de même permis de traiter les gens de J Street, avec lesquels on est en droit de ne pas être d'accord, de capot. Et puis il serait pris et dit non, ce genre-là, voyez J Street, ce mouvement sioniste de gauche américain. Et il les a traités de capots et puis il s'est repris à dire non, ils ne sont pas contre les capots, ils sont bien pires. Enfin, vous voyez un peu le genre. Si vous voulez, moi qui suis proche de cette Provence, je suis pire qu'un capot. Alors, cela étant dit, qu'est-ce que cela va changer concrètement ? Je veux dire, vous avez eu des ambassadeurs très ambassadoriaux, tout à fait dans la ligne des départements d'État classiques. Ils étaient polis, propres sur eux, gentils, les Shapiro, Indyk et les autres. Ils n'ont rien fait. C'est donc l'impact de la politique américaine raisonnable depuis toujours a été du point de vue qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la rétrocession des territoires et la paix palestinienne, absolument nulle. Et donc j'en viens à dire que peut-être un personnage haut en couleur comme celui-ci, envoyé par un président complètement déstructuré intellectuellement, qui ne sait pas où il vit, mais qui semble avoir quand même des idées assez précises sur un certain nombre de choses, comme le transfert de capitale de l'ambassade américaine dans la capitale, je me dis que la conjonction de tous ces... Cela provoquerait peut-être un choc salutaire qui ferait les choses bouger. Vous savez, quand la situation est assez désespérée, on finit tous par être un peu léniniens, si vous voulez. Vous savez, c'est le principe de Lénine, qu'il y a des situations où plus ça va mal, Dieu sait. Et il se peut que nous soyons dans une situation de ce genre, dans le monde tel qu'il est, avec Israël tel qu'il est, avec les Palestiniens tels qu'ils sont. Peut-être qu'il faut un coup de pied dans la fourmilière pour que les choses bougent enfin.
Mais justement, le fait que les USA passeraient peut-être d'un rôle d'honnête courtier, sans résultat d'ailleurs, et à devenir un rôle beaucoup plus proche et beaucoup plus actif du côté des colons israéliens, ne signifierait-il pas la fin du rôle médian des États-Unis ?
Mais ce rôle a toujours été... Ça a toujours été... théorie, si vous voulez, ou un projet, ça n'a jamais été vrai. Les Américains n'ont jamais été, n'ont jamais joué le rôle d'honnête courtier entre Israël et les Palestiniens, jamais. Ils ont été les alliés d'Israël, je serai le dernier avant-plan. Ils nous ont soutenus. Et dans le moment de la négociation, il y a toujours eu un moment, vous voyez que Clinton à Camp David, il y a toujours eu un moment où les Américains se sont rangés franchement du côté d'Israël. C'était comme ça. Et donc, là encore, rien ne changera, sauf sur le plan de déclaration et de quelques gestes symboliques. Mais peut-être qu'il faut précisément, je le répète, abandonner l'illusion et aller à la réalité. Vous savez, parfois, quand on enlève le masque, c'est mieux. On sait où on en est, on sait comment... Et donc, c'est pas que les Américains abandonnent le rôle d'honnête courtier qu'ils ont joué jusqu'à maintenant à la perfection pour endosser le costume de l'allié unique de l'État d'Israël. Non, ils changent de posture. D'autant plus que je ne vois pas trop, et ça personne ne le sait encore, ce que Trump va véritablement faire au-delà des gestes symboliques. Parce que bon, il est entouré d'une équipe qui tire à Hadia, si vous voulez, le secrétaire d'État est un pétrolier, c'est le président de Exxon qui est très bien avec le gouvernement arabe et très bien avec la Russie. Son directeur de la sécurité nationale, le général Flynn, il est excité anti-musulman à tout craint. Tous ces gens-là ne s'entendent pas. Et Trump lui-même, il est empêté dans d'incroyables contradictions, puisqu'il est, il est poutinien, il veut se rapprocher de la Russie, et en même temps, il se dit férocement anti-iranien, alors que les Russes et les Iraniens sont alliés, notamment sur le théâtre syrien. Comment tout ça va aller de pair avec en toile de fond la décision, la volonté nettement affichée de Trump d'enfermer l'Amérique dans ses frontières, donc d'accentuer la posture isolationniste de son prédécesseur, comment tout cela va influencer la situation ici? Bien malin qui vous le dira maintenant. En tout cas, ce sont des temps intéressants et vous connaissez le proverbe chinois. Il demande aux dieux de les protéger des temps intéressants. Ce sont des temps de malheur généralement.
Alors, pour avancer dans votre vision, je lisais un article très long du correspondant du Monde, Piotr Smolar, qui signait un long article dans le Monde intitulé « Israël-Palestine, la fin de l'État palestinien ». Question qui ressemblait d'ailleurs à une prévision inéluctable. Pensez-vous qu'il a raison ?
J'ai lu cet article, bien sûr, et je pense que là... L'analyse est excellente, mais la conclusion est hâtive. Vous savez, je me suis assez occupé du passé pour savoir qu'on ne peut rien dire d'intelligent sur le futur. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut tracer des lignes probables à partir de ce que nous savons. Mais ce que nous ne savons pas est généralement beaucoup plus puissant, beaucoup plus déterminant que ce que nous imaginons savoir. Qui c'est qui aurait pu penser, je sais pas, qui a prévu la chute du mur de Berlin, la révolution arabe, ou plus près de nous, la victoire de Trump, à laquelle personne n'y croyait, y compris lui-même. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pourquoi je pense que cette conclusion est hâtive, pour une raison très simple. C'est que si on enterre la solution à deux États, si on dit que l'État palestinien s'est terminé, il faut bien dire qu'est-ce qu'on va avoir à la place. Or, il n'y a rien à la place. Ça, il faut bien le comprendre. Les colons rêvent dans un... ils vivent dans un rêve messianique. Une frange de l'extrême-gauche israélienne s'imagine pouvoir vivre dans un État binational, un État de tous les citoyens. Ce sont des extrêmes idéologiques, mais qui reviennent au même. À la guerre civile et à l'apartheid. Et donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, est-ce que c'est possible à brève échéance? Certainement non. Moi, cela fait longtemps que je cessais de parler de la paix. D'ailleurs, je parle de la fin d'occupation. Je ne sais pas de quoi pourrait être faite la paix aujourd'hui. Pas seulement eu état, ce qui se passe chez nous, mais chez les Palestiniens. Une société qu'on est en brise, déchirée en factions rivales, corrompues jusqu'à la moelle, une classe politique épouvantable. Enfin bon, je ne vois pas comment il pourrait faire le nécessaire, et nous non plus. Donc la paix, je ne vois pas très bien, pas à brève ou moyenne échéance. En revanche, la fin d'occupation, il faut envisager, le plus vite sera le mieux. Alors, de quelle manière? De manière unilatérale, je réponds maintenant de plus en plus, oui, s'il le fallait, même de manière unilatérale, l'occupation est mauvaise pour les Palestiniens, bien sûr, mais elle est aussi mauvaise pour nous. Et donc je ne pense pas que l'État palestinien soit terminé. Je pense qu'il refera surface, je pense que c'est une nécessité historique. Quand, comment, sur quelle modalité, ça, évidemment, je n'en sais rien.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour votre intervention. Malgré ces moments un peu pessimistes que vous décrivez, je voudrais personnellement terminer par une note plus gaie à la veille des fêtes de Noël et du Nouvel An, car j'ai eu l'occasion de voir à Avignon un très beau spectacle d'un Israélien qui s'appelle Hillel Kogan, qui s'appelle We Love Arabs, et qui montre que l'avenir peut malgré tout être dans le sens de la liberté et de la démocratie, qui est malgré tout toujours vivante en Israël. Merci, monsieur l'ambassadeur, merci, Elie Barnavi. Ainsi se termine l'émission Chronique pour la paix. Ne manquez pas de consulter notre site internet www.lapaixmaintenant.org, car vous recevrez ainsi toutes les dernières informations sur la situation en Israël. Avec vous, Elie Barnavi, Gabriel Shapiro vous souhaite Shabbat Shalom. Vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, et à l'année prochaine.